Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour vous interroger à mes côtés, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour Adrien. En plus, Bruno Le Maire, ce sera Daniel Dreger de la CGT Alstom de Reichshoffen qui vous interpellera. Et puis bien sûr, question nette en fin d'émission. Vous pouvez toujours intervenir en direct sur les réseaux sociaux. Hashtag le grand jury. Et Marie-Pierre Haddad nous rejoindra en fin d'émission pour relayer vos questions. Alors Bruno Le Maire, dans une récente interview, vous affirmez que le capitalisme se trouve, je vous cite, « dans une impasse ». Seriez-vous alors tenté par une approche collectiviste, marxiste de l'économie ? Mais je rassure tout de suite ceux qui nous écoutent, coupons court au suspense, bien sûr que non. Ce n'est ni votre ADN politique, ni votre ambition, mais pour survivre, dites-vous, le capitalisme doit désormais se parer de vers de préoccupations écologiques, mais aussi s'infléchir vers une lutte contre les inégalités sociales. D'où la baisse, certainement pour vous importante, des impôts dans le budget 2020 que votre gouvernement vient de présenter. Mais n'est-ce pas d'abord un budget imposé par la rue, par le mouvement des Gilets jaunes, un budget de pacification, mais au prix d'une augmentation de la dette du pays et donc imputable aux générations futures. En somme, un budget qui ne veut pas faire trop de vagues, de peur que la colère sociale ne se réveille à nouveau. Vous nous répondrez dans cette émission. Mais bien sûr, impossible de commencer ce grand jury sans évoquer l'un de vos lointains prédécesseurs à votre poste, Bruno Le Maire. Bien sûr, Jacques Chirac, un président que vous avez bien connu. La première question vous est posée par Adrien Gindre.
Évoquer Jacques Chirac, c'est bien sûr évoquer, on l'a fait beaucoup cette semaine, Charles de Gaulle, Georges Pompidou. Il y a également la question de son héritage politique aujourd'hui. On se demande, je vous demande, si à vos yeux aujourd'hui Jacques Chirac a encore un héritier sur la scène politique. Et je voudrais compléter d'un mot. On a entendu certains proches du chef de l'État actuel, Emmanuel Macron, cette semaine, dresser une sorte de filiation indirecte sur les questions comme la place de la France dans le monde ou une politique qui ne serait ni tout à fait à droite, ni tout à fait à gauche. Est-ce que vous, vous voyez des points communs entre l'ancien et l'actuel président, ou sinon, qui aujourd'hui incarne le mieux le chiracisme ?
Je pense que les hommes d'État exceptionnels, les hommes exceptionnels tout court, n'ont jamais d'héritier. En revanche, on peut s'inspirer d'eux. Donc Jacques Chirac, pour moi, n'a pas d'héritier. Jacques Chirac est Jacques Chirac. Son parcours exceptionnel, son destin. En revanche, c'est une source d'inspiration. La manière dont il arrive à relier les territoires ruraux et les questions internationales. La manière dont il arrive à porter l'universalisme français, c'est-à-dire à s'intéresser à autre chose qu'à la France, tout en étant passionné par la France. Son obsession de l'unité nationale. Tout ça, je pense que ce sont des éléments d'inspiration pour tous, pour le président de la République, mais pour beaucoup de responsables politiques également, moi le premier.
Chacun souligne le bilan international du président Chirac, la position de la France contre la guerre en Irak. Et d'un point de vue économique, est-ce que le bilan n'est pas plus modeste ? Les finances publiques ont continué à se dégrader, il n'y a pas eu beaucoup de réformes ?
Alors je considère, je l'ai dit ce matin dans le JDD, qu'à tous les moments décisifs, Jacques Chirac a su prendre les bonnes décisions, celles qui emmenaient le pays dans la bonne direction. Il a su s'opposer aux extrêmes et mettre une ligne rouge très claire entre la droite républicaine et le Front National. Il a tenu cette ligne contre vents et marées.
Ma question portait sur l'économie.
Il a su s'opposer à la guerre en Irak. Et Dieu sait, j'en étais le témoin direct pendant plusieurs mois, plusieurs jours, à quel point cette décision était coûteuse politiquement, aussi bien dans l'horizon français qu'au niveau international. Et au niveau économique, moi ce que je constate, c'est qu'en 2007... nous avons laissé avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac une France où vous aviez un taux de chômage aux alentours de 8%, des comptes publics qui étaient rétablis et un niveau de croissance qui était satisfaisant. Est-ce que nous aurions pu faire plus ? Oui, évidemment. Est-ce que nous aurions pu engager des réformes structurelles plus importantes ? Sans doute. Mais souvenez-vous aussi du contexte politique de l'époque. Souvenez-vous comment Jacques Chirac avait été élu en 2002, cette surprise de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, je pense que ça avait profondément marqué Jacques Chirac, qui du coup avait l'obsession de l'unité nationale. Et quand nous avons tenté, par exemple, le contrat première embauche, avec cette idée que, dans le fond, il fallait tout faire pour faire baisser le chômage, notamment le chômage des jeunes, Il nous a laissé carte blanche avec Dominique de Villepin, mais quand il a vu que l'unité nationale pouvait être délitée par cette mesure,
avec
il a dit...
Avec beaucoup de jeunes dans la rue.
Mais donc ça veut dire que c'était la rue qui gouvernait à ce moment-là ?
Non, ça veut dire que l'unité nationale l'emportait sur une mesure économique. C'était la vision qu'avait Jacques Chirac des transformations économiques. L'unité nationale passait avant. Et je vais vous dire, j'en ai tiré une leçon très simple, c'est que dans le grand défi que nous avons du plein emploi, auquel nous ne sommes pas encore aujourd'hui, il y a des solutions qui ont été adoptées par d'autres pays, je pense en particulier à la Grande-Bretagne ou par l'Allemagne, qui ne pourront pas s'appliquer en France. Payer les gens moins que le SMIC, ça ne marchera pas en France. Et si le prix à payer du plein emploi, c'est de payer les gens en dessous du SMIC, avec des mini-jobs comme en Allemagne, ou avec des contrats à l'heure comme en Grande-Bretagne, ça ne passera pas en France. Et c'est une des leçons de Jacques Chirac. Il faut trouver des solutions économiques qui soient conformes à l'identité de son pays.
Mais il faut savoir reculer parfois.
Il faut savoir... savoir avoir le courage d'écouter les revendications des Français, les inquiétudes des Français, et se dire, quand il y a 3 millions, 4 millions de personnes dans la rue, on n'avance plus. Là aussi, c'est une de mes convictions. On peut être très déterminé, comme je le suis, à transformer économiquement le pays, et vous dire avec beaucoup d'humilité, vous ne le ferez jamais dans la brutalité. Jamais.
Est-ce qu'il a toujours compris le pays aussi, Jacques Chirac ? Il y a eu les émeutes de banlieue en 2005. Bruno Le Maire se fumait un moment important dans ce pays. 3 semaines d'émeutes dans les banlieues. Est-ce que c'est pas aussi, il incarne pas aussi cette déconnexion qu'ont beaucoup, que peuvent avoir beaucoup de chefs d'État, comme par exemple à un moment donné Emmanuel Macron face aux Gilets jaunes en début de crise ?
Je vais vous dire, Benjamin Sportouche, la politique est un long apprentissage. Un long apprentissage de la France, qui est un pays extraordinairement complexe. Un long apprentissage du peuple français qui change, qui évolue et qui est lui aussi extraordinairement complexe et contradictoire. Et à quelque niveau que vous soyez de la vie politique, que vous soyez président de la République, conseiller général, maire, ministre, tous les jours vous apprenez quelque chose de nouveau du peuple français. Mmh. Et j'ai vu effectivement, je le reconnais, un Jacques Chirac qui par moments pouvait être un peu décontenancé par le peuple français. Vous citez... les émeutes des banlieues, on aurait pu citer aussi ce débat sur l'Union européenne où il était face à des jeunes et où j'ai vu quelqu'un pour lequel j'ai une profonde admiration, Jacques Chirac, décontenancé par les critiques des jeunes, par leurs attentes. Mais c'est ça la vie politique. C'est le contact permanent avec le peuple français et l'apprentissage long, difficile, parfois surprenant, de leurs attentes et de leurs aspirations.
Et est-ce qu'il n'a pas décontenancé aussi un peu les électeurs de droite par sa politique, parfois empruntée à la gauche ? Est-ce que l'état de la droite dont vous venez aujourd'hui, est-ce que Jacques Chirac a une part de responsabilité là-dedans ?
Je pense que Jacques Chirac était un vrai gaulliste. Donc il n'était ni de droite, ni de gauche. On connaît la fameuse intervention du général de Gaulle disant « Mais la France, c'est pas la droite, c'est pas la gauche la France ». Et je crois que Jacques Chirac, profondément, était comme ça. Il a, et c'est de l'originalité de son parcours, il a dirigé le RPR pendant des années. Mmh. Mais dans le fond, ça n'a jamais été vraiment un homme de parti. Il a guidé la droite.
C'était pas un homme de droite.
Mais dans le fond, c'était pas vraiment un homme de droite. C'était quelque chose de différent. Il allait puiser des inspirations à gauche. N'oublions pas qu'il a distribué l'humanité quand on était jeune. C'est pas si anodin que cela. Il a porté aussi des mesures très libérales de 1986 à 1988. Voilà, c'est l'originalité de son parcours qui fait que c'est un personnage inclassable. Et je pense que les Français aiment bien les personnages inclassables.
Hier, Marion Maréchal était en meeting, en quelque sorte, à Paris. Est-ce que vous pensez que Jacques Chirac, en son temps, s'est opposé au Front National ? Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, dans cette filiation, devrait aussi dire un mot face à ce qu'il a pu, et ce qui a pu être dit hier, avec des propos très durs sur le grand remplacement, sur l'islam, sur l'immigration ?
C'est pas le rôle d'un président de la République d'aller commenter des conventions politiques. Ce que je sais, c'est que Jacques Chirac, en tout cas, au deuxième tour d'une élection présidentielle comme celle de 2017, quand il y a eu Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, il n'aurait pas hésité un instant. Il aurait appelé à voter pour Emmanuel Macron. Il n'aurait pas simplement dit « je vote pour Emmanuel Macron », mais je suis convaincu qu'il aurait appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et là où la droite, à mon avis, s'est perdue, c'est en refusant de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Donc les Républicains ne peuvent pas se prévaloir d'une filiation avec Jacques
Chirac. Elle a ouvert tout grand le champ à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire ces conventions, ces discours sur le grand remplacement, ces inquiétudes. Je pense que c'est la droite, en 2017, qui a ouvert le champ à ce terrain politique que nous voyons aujourd'hui, des extrêmes et du Front National qui sont à des niveaux très élevés. Nous, notre responsabilité, parce que nous sommes au pouvoir, donc la responsabilité quand on est au pouvoir, c'est de prendre des décisions, c'est de répondre aux inquiétudes des Français. Et elles vont de la question économique, que nous sommes en train de résoudre, parce que les résultats, ils sont là. Nous avons une croissance qui est plus forte que la moyenne de la zone euro. Nous avons recréé des emplois, près d'un demi-million en l'espace de 2 ans, donc c'est pas mal. On est dans la bonne direction. Je ne vous dis pas que c'est parfait, mais on va dans la bonne direction. Mais être capable d'y répondre aussi sur les sujets d'immigration, sur les sujets d'islam politique. Vous savez à quel point c'est important, à mes yeux, de lutter contre le communautarisme. Nous devons répondre à toutes les interrogations et inquiétudes des Français.
On va y venir. Une toute dernière question sur Jacques Chirac. Est-ce que vous souhaitez que la place de l'Hôtel de Ville de Paris porte son nom ?
C'est pas à moi de décider de cela.
Mais
non, mais c'est pas à moi. Je pense que vous verrez fleurir, en tout cas je le souhaite, pas simplement sur les places de Paris, mais je l'espère sur toutes les places de France, y compris dans les plus petites communes rurales, des places, des rues qui porteront le beau nom de Jacques Chirac.
Alors, on en vient à une autre actualité de la semaine. C'est bien sûr l'explosion d'une usine Seveso à Rouen. Adrien Jean.
L'usine Lubrizol, en l'occurrence, c'était également jeudi, jour du décès de l'ancien président. Le feu est à présent éteint, les autorités l'ont établi. En revanche, il reste des inquiétudes sur le caractère dangereux des émanations liées à cet incendie. Hier, le préfet a expliqué qu'il y avait une qualité de l'air normale à Rouen, sauf sur le site de l'usine. Est-ce que vous considérez avoir les éléments aujourd'hui pour pouvoir assurer à nos téléspectateurs et auditeurs qu'il n'y a pas de danger à Rouen pour la population ?
D'abord, je voudrais avoir une pensée pour la population de Rouen. J'ai été élu au conseil régional à Rouen pendant des années. Je connais et j'aime profondément la ville de Rouen. Vous savez que c'est une géographie très particulière où la zone industrielle est quasiment imbriquée dans les zones d'habitation. Donc ça explique les préoccupations, les inquiétudes des habitants de Rouen. Et je les comprends totalement. Vous avez un tel panache de fumée noire avec des suies grasses qui s'abattent sur vous, c'est profondément préoccupant.
Mais vous trouvez pas que vous avez sous-estimé au début ? Est-ce que vous avez alerté justement
Non, je pense justement que le Premier ministre, écouté le Premier ministre au Conseil des ministres vendredi. Nous prenons cela très au sérieux. Il a demandé à ses ministres de se rendre sur place. Nous faisons un suivi quotidien de la situation. Nous regardons la qualité de l'air. Nous regardons le risque de pollution pour les eaux de la Seine. La question des terres agricoles sur lesquelles des suies ont pu retomber. Nous allons appliquer le principe de précaution pour que, évidemment, les produits agricoles ne soient pas distribués.
Mais vous comprenez que ça rappelle le nuage de Tchernobyl qui était censé arrêter à nos frontières. Là, on se dit que c'est quand même très bizarre, cette qualité de l'air qui serait mauvaise au niveau de l'usine et bonne juste à côté.
C'est pour ça que je suis très prudent dans ce que je vous dis. La seule chose que je veux garantir, parce que j'en ai été le témoin, c'est que le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement prennent le sujet extrêmement au sérieux et que nous suivons quotidiennement, heure par heure, la situation, la qualité de l'air, les risques de rejet pour garantir la sécurité sanitaire totale des habitants.
Mais si on s'apercevait, Bruno Le Maire, finalement, que les émanations étaient dangereuses et que la qualité de l'air était moins bonne qu'annoncée, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a le sentiment aussi que les pouvoirs publics sont impuissants face à un phénomène qui était à ce point imprévisible et d'ailleurs qui n'était pas prévu dans les plans de risque de l'entreprise.
Le problème fondamental, c'est que c'est un modèle de développement qui n'est plus viable aujourd'hui. Avoir des usines classées Seveso qui sont quasiment imbriquées dans une ville, on ne ferait plus ça aujourd'hui. Donc il faut gérer ce risque, assurer la sécurité sanitaire de tous les habitants de Rouen, c'est pour moi ma préoccupation première, et je peux vous le redire. Tout le gouvernement, les ministres qui sont directement concernés, la ministre de la Santé, la ministre de l'Environnement, le ministre de l'Intérieur, tous les trois se sont rendus sur place pour justement écouter les habitants, s'assurer que toutes les décisions nécessaires sont prises. Et le Premier ministre, personnellement, suit le sujet quotidien.
Est-ce qu'il va s'y rendre, le Premier ministre ?
Ça, je ne sais pas, mais il a l'habitude d'aller souvent dans la région Normandie.
Vous souhaitez qu'il y aille ?
C'est à lui de décider. Je ne fais pas l'agenda du Premier ministre.
Bruno Le Maire, vous venez de nous dire qu'on ne devrait plus avoir d'usine Seveso. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un périmètre d'éloignement pour toute nouvelle usine étant Seveso ?
Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est garantir la sécurité sanitaire des habitants de Rouen. Après, qu'on fasse un retour d'expérience et que nous regardions quelles leçons il faut en tirer sur les implantations d'usines, sur les usines à risque, sur la topographie de toutes les usines à travers le territoire, pourquoi pas ? Je pense que ça pourrait être utile.
D'accord. Alors, sur un autre sujet d'actualité, la PMA, puisqu'elle a été votée, la procréation médicalement assistée, cette semaine, vous y étiez hostile, Bruno Le Maire. Maintenant que cette loi est en passe d'être votée, il y a encore le Sénat, est-ce que vous avez changé d'avis ?
C'est moi, j'ai suivi les débats avec beaucoup d'attention. Et je trouve que ça a été des débats de grande qualité, menés notamment par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de publications, d'articles, de tribunes, de rapports, extrêmement intéressant sur le sujet. Et je pense que c'est bien que la majorité ait répondu à une attente de milliers de personnes à travers le pays qui voulaient cette PMA pour toutes. Mmh. Répondre à une attente d'une partie de la société, c'est toujours bien. Et répondre par ailleurs à un engagement de campagne, c'est toujours bien aussi.
Et vous, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous, vous avez changé d'avis ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la PMA pour toutes est une bonne décision ?
Je pense que c'est bien d'avoir répondu aux attentes de milliers de personnes en France, oui.
Mais vous n'avez pas changé d'avis, vous êtes personnellement hostile à la PMA.
Je pense être clair dans ce que je vous dis. Je pense que c'est bien d'avoir répondu aux attentes d'une grande partie de la société française.
Mais dont vous ne faites pas partie vous-même.
On parle souvent du principe de précaution. Est-ce qu'il n'aurait pas dû s'appliquer ? On va faire disparaître la figure du père avec ces PMA pour les couples de lesbiennes ou les femmes seules. Ce n'est pas inquiétant ?
Je ne pense pas qu'on fasse disparaître la figure du père.
Là, dans les états civils, il y aura mère et mère pour les enfants.
C'est quelques milliers de personnes. Et la figure du père reste une figure importante. Je suis moi-même père de famille, j'ai 4 enfants, je suis attaché à la figure du père. Et je pense qu'on peut concilier réponse aux attentes de milliers de personnes en France qui disent, voilà, nous avons notre vie, nous avons notre expérience, nous avons construit notre famille de cette façon-là, sans menacer la figure du père et sans menacer un mode de vie de famille plus traditionnel. En tout cas, c'est la conviction à laquelle je suis arrivé. Moi, j'ai ma vie personnelle, j'ai mes enfants, ma femme, je suis père de famille, j'ai 4 fils. Je pense que ça n'est pas inconciliable avec la reconnaissance de droits pour d'autres qui ont des vies différentes. Vous savez, il y a un très beau titre d'un livre d'Emmanuel Carrère qui s'appelle « D'autres vies que les miennes ». S'il y a une chose que j'ai apprise en politique, c'est à respecter d'autres vies que les miennes.
Vous ne pensez pas qu'il y a un modèle plus souhaitable qu'un autre ?
Je ne pense pas qu'il faille imposer un modèle. Je pense qu'il y a un modèle auquel je suis attaché, celui du père de famille, de ses enfants. Et je pense qu'il y a des aspirations qui sont différentes, qu'il faut savoir les respecter et qu'il vaut mieux les encadrer par le droit que les laisser dans une espèce de vide juridique qui n'est bon pour personne.
Alors on en vient à la présentation du budget 2020. C'était cette semaine en Conseil des ministres par votre collègue Gérald Darmanin. Ce qui est envisagé, c'est 1,3% de croissance pour l'année prochaine. Plus de 9 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages. 1,3 milliard d'euros d'économies attendues pour les entreprises. Éric Woerth, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, président Les Républicains de cette Commission des finances, pour lui, ce projet de loi est en 3D, dette, déficit et dépenses, puisqu'en effet, la dette va fortement augmenter et le déficit passer à 2,2% au lieu de l'objectif des 2% que vous vous étiez vous-même fixé. Que lui répondez-vous ?
Bon, j'étais un peu taquin. Je dirais qu'Éric Woerth sait de quoi il parle, puisque la dette a flambé au cours des 10 dernières années, qu'elle a pris 30 points de plus, de 64% à près de 98% de notre richesse nationale, et qu'il en porte une responsabilité.
Peut-être mais vous aussi, vous étiez ministre aussi.
Je n'étais pas ministre de l'économie et des finances, ni ministre du budget. Mais je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'avenir de notre pays, et qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Nous avons réussi à rétablir les finances publiques avec Gérald Darmanin. C'est-à-dire que nous sommes sortis de la procédure pour déficit excessif, que nous aurons 2,2% de déficit public l'année prochaine. C'est le chiffre le plus faible depuis 20 ans. Donc c'est bien la preuve que nous arrivons, par rapport aux richesses que nous créons, à contenir la dépense publique qui est en face de cette création de richesses.
Et nous stabilisons, que vous aviez fixé.
Et nous stabilisons une dette qui a explosé, je le redis, au cours des 10 dernières années. Ensuite, qu'est-ce que ça va donner sur l'ensemble du quinquennat ? Sur l'ensemble du quinquennat, on va arriver quasiment à tenir nos objectifs sur la baisse de la dépense publique. On avait dit près de 3 points de baisse de dépense publique par rapport à la richesse nationale. On va n'être pas loin de cet objectif-là.
On sera à combien ?
On sera à combien ? On sera à 2,3 environ. Vous voyez, on n'est pas très loin de l'objectif.
Mais on risque d'atteindre une dette à 100% ou pas ? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'on risque d'atteindre une dette à 100% ?
Mais bien sûr qu'on peut atteindre une dette à 100% à un moment ou à un autre, mais nous faisons tout pour l'éviter.
D'ici 2022 ?
Mais nous faisons tout pour l'éviter. Et toutes les décisions que nous prenons, c'est justement pour stabiliser et réduire la dette. Et quand vous regardez sur la durée du quinquennat, nous aurons réduit la dette publique par rapport à la richesse nationale. Et surtout, nous aurons baissé des impôts plus que ce qui était prévu. On avait dit 1 point de baisse d'impôts, on va faire 1,3. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous adaptons à une situation économique internationale qui est marquée par un ralentissement fort de la croissance et nous tenons compte des attentes des Français qui se sont manifestées de manière brutale au moment de la crise des gilets jaunes.
Mais Bruno Le Maire,
un budget c'est un acte politique.
Donc c'est un acte politique, c'est une réponse aux Gilets jaunes. Ce budget a été quelque part guidé par la rue.
Mais Benjamin Sportouche, si je vous expliquais que nous n'avons pas écouté les Gilets jaunes, que nous n'avons pas écouté les revendications de ces millions de Français qui soit manifestaient, soit soutenaient les manifestants, qui nous ont dit une chose simple, on veut que notre travail paye plus. Mais quel responsable politique est-ce que je serais si je n'écoutais pas les Français?
Mais au prix d'une dette plus importante, est-ce qu'il n'y a pas... Cette dette, quand même, c'est important.
Mais d'abord, Benjamin Sportouche, permettez-moi d'insister là-dessus.
Est-ce que c'est pas...
Nous voulons répondre à une attente forte, légitime des Français. Le travail doit payer. Et nous ne prenons pas des décisions de distribution de l'argent public en veux-tu, en voilà. Nous prenons des décisions qui permettent de mieux rémunérer le travail. La baisse de l'impôt sur le revenu, c'est pour qui?
Mais au prix...
C'est pour les Français qui travaillent. L'augmentation de la prime d'activité, c'est pour qui? C'est pour les Français qui travaillent. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est pour qui? C'est pour les Français qui travaillent. La suppression de la taxe à 20% sur l'intéressement, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que toutes les PME, toutes les petites entreprises puissent distribuer de l'intéressement à leurs salariés et que chaque salarié en France, même dans les meilleures entreprises, soit mieux payé.
Et tant pis si certains déficits vont augmenter, notablement, par exemple celui de la sécurité sociale, 5 milliards d'euros, parce qu'elle va payer une partie des promesses d'Emmanuel Macron.
Non, pas tant pis.
En réponse aux Gilets jaunes.
Je vais être très clair là-dessus, pas tant pis. Nous ne laissons pas filer les déficits. Nous tenons l'objectif de 2,2% de déficit public en 2020. Nous stabilisons la dette. Et je redis avec beaucoup de force que nous devons continuer à nous battre pour faire baisser la dette publique dans notre pays et continuer à nous battre pour faire baisser la dépense publique. Et je propose à nos amis parlementaires, je leur ai dit en commission vendredi, que nous regardions ensemble quels sont les grands objets de dépenses publiques sur lesquels nous pourrions faire des réductions de dépenses en échange de modifications de fonctionnement qui permettraient d'accompagner ces réductions de
dépenses.
Mais le message que je veux faire passer, il est très clair, c'est que l'on peut conjuguer la réponse aux attentes des Français sur le travail et des finances publiques bien tenues.
Vous n'avez pas dit que vous avez été beaucoup aidé aussi par des taux d'intérêt qui sont très bas. Combien est-ce que la baisse des taux va faire économiser à l'État l'année prochaine?
Alors, ça dépend de l'évolution des taux, mais c'est effectivement plusieurs milliards d'euros.
Combien? 2, 3, 5, 10?
C'est plus de 2. Plus de 3 et plus de 5. Après, jusqu'où
entre 5 et 10 milliards d'euros.
C'est beaucoup de milliards d'euros, mais je ne veux pas vous donner de chiffres définitifs à partir du moment où les taux évoluent eux-mêmes. Je veux simplement être très clair sur un sujet. Les taux bas et les taux négatifs sont une illusion. C'est très bien pour les finances publiques françaises, c'est très bien pour la charge de la dette, mais tous ceux qui pensent qu'on peut bâtir une politique économique uniquement sur les taux d'intérêt bas ou négatifs, se trompe.
Mais est-ce que vous faites
d'abord,
pour partie, Bruno Le Maire,
à un moment ou un autre,
c'est ce que vous faites pour partie, c'est l'un de vos leviers.
Absolument pas, ce n'est pas un de nos leviers. Nous, le levier que nous avons, c'est les dépenses d'investissement, c'est le financement de l'innovation, c'est le maintien d'une politique de l'offre. Mais pourquoi est-ce qu'il faut se méfier des taux d'intérêt bas ou négatifs? C'est que d'abord, un jour ou l'autre, ils remonteront.
Et la charge de la dette, du coup, explosera. Par exemple, aujourd'hui.
Il faut s'en méfier également parce que ça a un impact sur des secteurs économiques qui représentent des centaines de milliers d'emplois. Pour les banques, pour les assurances, qui représentent des centaines de milliers d'emplois dans notre pays, elles perdent leur profitabilité et du coup, c'est une menace pour l'emploi. La troisième raison pour laquelle il faut être très vigilant, c'est que ces taux d'intérêt négatifs ou très faibles, ils sont bons pour ceux qui peuvent emprunter, acheter un logement. Mais pour tous ceux qui ont les niveaux de revenus les plus modestes, les taux d'intérêt bas, ça veut dire aussi une rémunération de leur épargne qui est plus faible sans qu'ils aient la possibilité d'investir. Donc ça n'est pas la solution. Nous tenons compte de ce contexte nouveau. Mais la vraie solution, c'est que les États de la zone euro qui en ont la capacité se mettent à dépenser l'argent nécessaire pour investir, innover et soutenir la croissance.
Est-ce qu'il peut y avoir une augmentation soudaine des taux d'intérêt? Est-ce que vous la craignez dans les mois à venir?
Je ne le crois pas. Tout simplement parce que le président de la Fed, Jay Powell, et le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, ont pris les bonnes décisions. Mais à partir du moment où cette politique monétaire aujourd'hui a un effet réduit, il est essentiel que la politique budgétaire des États qui en ont la capacité, l'Allemagne la première, prenne le relais avec de l'investissement, de l'innovation et une relance de la croissance de la zone euro.
Alors sur les sources d'économie que vous voulez faire, vous venez d'en parler, vous incitez les parlementaires à trouver des sources d'économie, il y a les fonctionnaires notamment, Guillaume.
Oui, vous avez annoncé 47 suppressions de postes pour la fonction publique d'État qui comprend, si mes chiffres sont exacts, 2 427 000 agents. C'est presque une provocation, un chiffre pareil.
Oui, mais si j'étais provocant, je vous dirais aussi qu'on a besoin de recréer des postes dans la sécurité, dans la police, dans la gendarmerie,
des fonctionnaires.
Dans les armées. Et moi, j'assume totalement cette position-là. On l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes. Regardez l'état des forces de police. Regardez les situations dans lesquelles elles se retrouvent. Regardez les manifestations toujours plus violentes auxquelles elles sont confrontées. Ben, nous avons besoin de plus de policiers. Nous avons besoin de plus de forces de l'ordre.
Oui, mais il n'y a pas que des policiers dans ces 2 400 000 fonctionnaires. Il n'y a nulle part à faire des économies ou à rationaliser des postes.
Mais je pense que si vous voulez le faire, il faut le faire dans le cadre de ces grandes politiques publiques que j'appelle de mes voeux. Je donne un exemple de ce qui a été fait.
Donc on ne le fait pas
pour
l'instant.
Prenez les chambres de... Mais ça ne veut pas dire que par la suite, on ne pourra pas faire des économies de dépenses publiques, mais en prenant le temps nécessaire, dans la concertation et avec des mesures d'accompagnement. Prenez l'exemple des chambres de commerce et d'industrie. On a réduit de quasiment un demi-milliard d'euros le budget des chambres de commerce. Pourquoi est-ce qu'on y arrive ? C'est qu'on ne leur dit pas on va le faire du jour au lendemain, on le fait sur 3 ans. On ne leur dit pas il n'y a pas de contrepartie, on leur dit on change le statut des chambres de commerce et d'industrie, des salariés qui vont passer sous un statut différent, plus souple. Et on leur offre la possibilité de conclure des contrats avec les entreprises pour se financer. Ça prend 2 ans de faire cette réforme, mais au bout du compte, vous avez une économie structurelle d'un demi-milliard d'euros.
Bruno Le Maire.
Je souhaite qu'on prenne cet exemple-là pour, avec les parlementaires, trouver d'autres sujets d'économie de dépenses publiques qui nous permettront de tenir cet objectif.
Bruno Le Maire, quand même, ce qu'on peut se poser comme question, c'est là, il y a 9 milliards de baisses d'impôts, c'est est-ce que les Français ne vont pas devoir faire des sacrifices dans les 2 budgets qui suivront d'ici 2022 pour rattraper, eh bien, ces cadeaux fiscaux qui restent des cadeaux fiscaux.
Vous savez, je regarde avec attention toutes les interrogations. Elles sont légitimes. Je vois bien là, percer une petite musique, mais dans le fond, est-ce qu'ils sont en train de changer de direction ? Et la réponse est non. Nous ne changeons de direction ni sur le rétablissement des finances publiques, ni sur une politique de l'offre qui vise à améliorer la compétitivité de nos entreprises.
Il y avait 50 000 suppressions de postes promises. Pour l'instant, il y en a 47.
Mais
c'est pas un changement
de direction. La suppression de postes n'est pas le seul remède qu'on peut apporter à la dépense publique.
Elle était dans le programme.
Il y en a d'autres. La seule chose sur laquelle je veux insister, c'est que nous tenons cette politique de l'offre pour les entreprises, de réduction de la dépense publique qui permet effectivement de financer des impôts. Et c'est pour cela que j'appelle à ce que nous réfléchissions dès maintenant à ce que peuvent être les économies de dépenses publiques supplémentaires dans les années qui viennent qui nous permettront de garantir que ces baisses d'impôts, c'est une fois pour toutes et on n'y touche plus.
Dernière question avant la pause, Adrien Gindre.
Parlons recettes tout de même. L'impôt sur la fortune immobilière s'est substitué à l'impôt sur la fortune de solidarité, de l'ISF. Un rendement attendu d'1,9 milliard en 2020, c'est 2 fois plus que ce qui avait été évoqué initialement. Est-ce que c'est pour vous la démonstration que l'IFI suffit et qu'il n'y a plus lieu de réfléchir à un éventuel retour de l'ISF, puisqu'on sait que cette suppression devait être évaluée ?
C'est la preuve que lorsqu'on nous reproche de faire une politique pour les riches, ce n'est pas tout à fait exact, puisque nous avons maintenu justement l'IFI et que cet IFI concerne toutes les personnes, tous les ménages qui ont un patrimoine immobilier de plus de 1,3 million d'euros, avec en plus 30% d'abattement pour la résidence principale,
si c'est-à-dire 1,7 million d'euros. Vous auriez gagné davantage, l'assiette étant plus grande.
Ça veut tout simplement dire que sur le patrimoine immobilier, qui permet à certains, et tant mieux, de se constituer un capital, nous avons gardé une imposition qui est juste et qui est efficace.
Mais donc il n'y aura pas de retour de l'ISF, c'est clair maintenant, ou la question reste
ouverte ? Je crois que le président de la République a tranché la question. Il a encore la constance dans une politique économique, dans une politique fiscale, elle est absolument décisive pour obtenir des résultats. Si nous avons des résultats aujourd'hui, et si j'espère nous en aurons dans les années qui viennent encore plus marqués, c'est en tenant notre ligne.
Une toute dernière question. Est-ce que vous allez augmenter le malus auto pour les voitures les plus polluantes, comme le dit Les Échos dans son édition d'hier ?
Alors oui, nous allons augmenter le malus auto, mais pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a de nouveaux critères européens, que nous tenons compte de ces nouveaux critères européens, et qu'on ne peut pas vouloir accélérer la transition énergétique et garder des malus auto qui sont encore relativement modestes sur des véhicules qui émettent beaucoup de CO2.
De combien et quand, Bruno Le Maire ?
On va décaler les règles de calcul des émissions. On va passer de 117 grammes de CO2 à 110 grammes de CO2 pour le déclenchement de ce malus. Et nous allons augmenter le malus pour les véhicules les plus polluants. Je vous donne juste un exemple. Pour un véhicule qui émet 140 grammes de CO2 au kilomètre, on va passer le malus de 690 à 1901 euros. Donc c'est une manière de dissuader. C'est une manière de dissuader les gens d'acheter des véhicules polluants.
Et ce sera à partir du 1er janvier.
À partir du 1er janvier.
C'est votre grand jury, Bruno Le Maire. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission. A tout de suite.
RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Jean de TF1 LCI et Guillaume Roquet du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
EDF construit des centrales nucléaires de nouvelle génération, les EPR, mais que ce soit en Angleterre ou à Flamanville, les coûts ne cessent d'augmenter, les dates d'ouverture sont reportées. Est-ce que les dirigeants d'EDF sont encore crédibles à vos yeux ?
Je voudrais d'abord vous dire, Guillaume Roquette, à quel point je pense que l'énergie nucléaire est indispensable pour réussir la transition énergétique. Si on veut réduire les émissions de CO2, nous avons besoin de l'énergie nucléaire. D'ailleurs, tous les rapports, notamment le dernier rapport du GIEC, le dit de manière très claire. Ensuite, qu'est-ce que je constate ? Je constate, comme vous, des délais supplémentaires sur la réalisation de l'EPR de Flamanville.
Ça devait ouvrir en 2012, délais, ce ne sera pas avant 2022.
J'aurais déjà dû l'inaugurer avec le Premier ministre, ce ne sera pas le cas.
Ce sera quand ? Ce sera quand, Bruno Le Maire ?
Je ne peux pas vous le dire.
Personne ne peut le dire, en fait.
Je me perdrais bien de prendre un engagement sur le sujet. Je constate qu'en Finlande, il y a eu aussi des retards importants. Et maintenant, nous apprenons qu'il y a des dérives de coûts sur le projet de réacteur nucléaire à Hinkley Point, en Grande-Bretagne. Toutes ces dérives sont inacceptables. Elles ne sont pas à la hauteur de ce que EDF représente et de l'expertise française en matière nucléaire. Et ça fait plusieurs mois que j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai lancé des avertissements. J'ai demandé à ce qu'un audit totalement indépendant soit réalisé sur la filière nucléaire et sur le choix de l'EPR. Il me sera remis, Guillaume Roquette, le 31 octobre prochain. Soyez certain que je tirerai toutes les conséquences, à tous les étages, de cet audit indépendant. Car nous ne pouvons plus accepter ces dérives dans la filière nucléaire française.
Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, a été reconduit récemment. Est-ce que lui pourrait, eh bien, s'il n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, être remplacé ?
Je vous dis à tous les étages. J'aimerais savoir ce qui se passe chez les ingénieurs, chez les décideurs, comment sont faits les choix, pourquoi est-ce qu'on retient telle technologie plutôt que telle autre. On ne peut pas accepter que le nucléaire soit un État dans l'État. Il y a des responsables politiques, président de la République, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, qui sont responsables de cette filière nucléaire. Donc nous voulons tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé, car nous n'accepterons pas ces dérives, mois après mois, année après année, sur tous les projets nucléaires français.
Bruno, pour être encore plus clair sur ce sujet, est-ce que les Français sont en train
pense,
de payer...
Je pense, Benjamin Spartouche, être d'une clarté limpide.
Alors, on va aller plus loin. Est-ce que les Français payent ces retards sur leur facture EDF ? Est-ce que ça leur est impacté ?
Ce n'est pas les Français qui vont payer ces retards.
Il y a des augmentations
d'EDF. C'est une filière qui représente...
Est-ce que ça fait partie de cette
C'est une filière qui représente des centaines de milliers d'emplois. C'est une filière qui représente des technologies de pointe. C'est une filière qui, à l'exportation sur les marchés étrangers, est extraordinairement prestigieuse
Mais
et nécessaire
pour
nos exportations,
que ce soit filière,
en Chine, en Inde ou ailleurs. Ben, à un moment donné, il faut redresser la barre. Et je pense que mon message est suffisamment clair. Il faut redresser la barre et redresser
abandonner
vite.
Ce type de projet.
Et l'État, qui est actionnaire d'EDF, prend ses responsabilités. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis, tiens, il y a un problème sur le nucléaire. Ça fait à peu près 2 ans que, depuis que je suis ministre de l'Économie et des Finances, je dis, attendez, là, il y a un retard. On m'explique qu'il y a des problèmes de soudure à Flamanville. J'écoute. Je peux comprendre qu'il puisse y avoir une difficulté technique. Je peux comprendre qu'il puisse y avoir un défaut de réalisation à un moment ou à un autre.
C'est une technologie
très innovante. Mais quand les retards s'accumulent, quand les défauts s'accumulent, quand, sujet sur sujet, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, il faut faire le point, le faire de manière indépendante. C'est l'audit qui me sera remis le 31 octobre. Et surtout, en tirer toutes les conclusions à tous les étages.
Ça peut remettre en cause l'avenir de la filière du nucléaire et questionner son utilité, son intérêt, vu les coûts.
J'ai tenu à vous dire, au début de mon intervention, que je croyais au nucléaire. Et le président de la République a rappelé, c'est lui qui, par définition, sur le nucléaire, a... la dernière main, celui qui décide, il a fait un choix stratégique, il s'est engagé vis-à-vis des Français. Le nucléaire est une filière importante pour nous et nous croyons au nucléaire. Mais raison de plus pour que du côté des praticiens, de ceux qui réalisent les réacteurs, eh ben, il y ait zéro défaut.
Toute dernière question, ça veut dire que Fessenheim n'est pas prêt de fermer. Si Flamanville n'est pas prêt, vous ne pouvez pas nous donner de date fixe pour la fermeture de Fessenheim. On nous dit que c'est une centrale.
Je ne lis pas le sujet. La décision de fermer Fessenheim a été prise. La décision de fermer Fessenheim sera appliquée avec toutes les mesures d'accompagnement qui ont été prévues, notamment par Sébastien Lecornu. Mais je veux la transparence et la vérité sur ce qui se passe actuellement dans la filière nucléaire.
Message envoyé aux dirigeants d'EDF, c'est l'heure de la question en plus.
grand jury, la question en plus.
Monsieur le ministre, bonjour. Daniel Dreger, délégué syndicat CGT de Reichshoffen. CAF, entreprise espagnole, a été retenue par la SNCF pour ses prochains trains contre Alstom. Voilà encore un couac incompréhensible pour l'ensemble des Français. Vous qui aimez nous comparer à l'Allemagne, cela n'arrive jamais chez eux. Et par exemple, les marchés automobiles de la police allemande sont toujours attribués à BMW et Audi. Quelle est la stratégie du gouvernement français pour l'industrie ferroviaire, une industrie essentielle et écologique? Il n'est pas acceptable que la compagnie ferroviaire nationale ne privilégie pas le matériel français et surtout l'emploi en France.
Bruno Le Maire, patriotisme économique ou pas?
Bien sûr, patriotisme économique. Patriotisme économique européen. Donc c'est le choix que nous avons toujours fait. Je veux rassurer le délégué syndical. D'abord, Alstom se porte très bien. Nous avons fait des commandes très importantes pour le site de Belfort, notamment les 100 TGV du futur dont j'ai annoncé le lancement il y a quelques mois. Reichshoffen a aussi un beau plan de charge avec les trains d'équilibre régionaux. Mais quand il y a un appel d'offres et qu'il y a une commission d'appel d'offres qui vous dit « voilà, les trains proposés par CAF sont plus compétitifs », ce n'est pas le rôle de l'État d'aller dire « attendez, on refuse la proposition de CAF qui est espagnole ». On ne parle pas d'un constructeur en dehors de l'Union européenne. Il a des emplois à Bagnères de Bigorre, il va recréer des emplois à Bagnères de Bigorre, qui est un endroit où on a aussi besoin d'emplois. Donc je pense que c'est une décision qui peut se comprendre. Et je veux rassurer le délégué syndical d'Alstom, ça n'empêche pas Alstom d'être une entreprise qui réussit très bien, qui a des commandes et qui est compétitif.
Et qui aura des commandes françaises.
Et qui aura des commandes françaises. Enfin, les commandes de TGV, notamment TGV du futur et des nouvelles rames, se font à Belfort.
Adrien Gindre.
Des inquiétudes, il y en a également dans l'aérien en ce moment, pour Aigle Azur, avec une cessation d'activité depuis vendredi, XL Airways, avec un placement en redressement judiciaire. Qu'est-ce qui se passe, Bruno Le Maire? Est-ce que ça veut dire que la France est incapable de porter, de soutenir des entreprises de rang international qui sont soumises à la concurrence?
Mais ce n'est pas le rôle de l'État de diriger des entreprises commerciales à la place de ces entreprises.
Et quand il y a des centaines et des milliers d'emplois.
Vous connaissez mais les emplois, je suis persuadé que les salariés pourront retrouver, les salariés d'Aigle Azur, des emplois dans un secteur aujourd'hui qui se porte bien. Et ça, pour le coup, c'est notre responsabilité de garantir que tous les salariés, que ce soit les personnels navigants, les pilotes, puissent retrouver un emploi. Mais le rôle du ministre de l'économie n'est pas d'aller investir des dizaines de millions d'euros dans une compagnie aérienne. Ça, je pense que ce ne serait pas son rôle.
Ces compagnies disent aussi qu'elles sont davantage taxées que des compagnies étrangères par l'État français et que ça crée un déficit de compétitivité.
Ce n'est pas ce qui explique les difficultés qu'ont pu rencontrer Aigle Azur et XL Airways.
Mais c'est vrai que les compagnies françaises sont plus taxées que les autres?
Nous avons la taxe sur les billets d'avion qui finance aussi un certain nombre de projets sur la lutte contre le réchauffement climatique. Mais prenez une belle compagnie comme Air France qui est en train de se redresser grâce au travail de Ben Smith. Je pense qu'on peut parfaitement rester compétitif dans le transport aérien. En revanche, il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Et notamment dans le low cost, dans le transport aérien, vous avez une compagnie qui s'appelle Norwegian Airways qui casse les prix et qui explique en partie les difficultés qu'on peut rencontrer XL Airways notamment.
Alors comment on
et
fait
elle casse les prix, elle est endettée, mais elle a un soutien public norvégien. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que les règles de concurrence doivent être les mêmes pour tous.
Donc on ne soutient pas des compagnies qui cassent les prix.
Imaginez qu'avec l'argent du contribuable, j'aille subventionner XL Airways, Aigle Azur ou d'autres compagnies low cost. Qu'est-ce que diraient mes partenaires européens? Ils diraient « mais c'est absolument inacceptable ». Bien, ce que nous ne pouvons pas accepter en Europe, nous ne pouvons pas l'accepter non plus de la Norvège. Et donc j'écrirai à la Commission européenne dès la semaine prochaine pour leur dire « mettez bon ordre à tout cela ». Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'une compagnie comme Norwegian Airlines casse les prix avec un soutien public norvégien au détriment de nos propres compagnies.
Une question sur les faillites. Joseph Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie et que vous connaissez bien, dit récemment, il dit que l'économie française ne va pas rencontrer une crise financière comme en 2008, ni même le monde, mais il prévoit des faillites en série. Est-ce que vous craignez, Bruno Le Maire, des faillites en série?
Non. Honnêtement, je ne suis pas là pour jouer les cassants. Moi, je suis là pour permettre à nos entreprises de bien se porter. On a recréé 500 000 d'emplois en 2 ans. Nous recréons pour la première fois de l'emploi industriel. Est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est comme sur la dépense publique. Ma réponse est oui, et 3 fois oui. Le président de la République et le Premier ministre m'ont confié la mise en place d'un pacte productif. Comment est-ce qu'à l'horizon 2025, on a le plein emploi? Comment est-ce qu'on recrée la compétitivité pour nos filières? Eh bien, dès la mi-octobre, je ferai des propositions très concrètes pour dire voilà les décisions qu'il faut prendre pour qu'à l'avenir, nous ayons toujours une industrie forte, une capacité de production qui soit forte. Prenez un exemple qui me tient très à cœur, chacun le sait, les impôts de production, 70 milliards d'euros qui pèsent sur nos entreprises industrielles, ça ne peut pas durer.
Justement,
s'il faut aller plus loin et faire plus, on est quand même étonné de voir qu'il y a, sur la présentation du budget, des critiques du MEDEF, la principale organisation patronale, qui dit que l'impôt sur les sociétés, par exemple, ne baisse pas suffisamment, pas assez rapidement, et que ça peut justement créer des difficultés aux entreprises qui, elles, œuvrent pour l'emploi.
Je ne comprends pas les critiques du MEDEF. Je travaille bien avec le MEDEF, c'est ma responsabilité, mais je dois dire que sur ce sujet, je ne comprends pas leurs critiques. Et je trouve que le MEDEF a la mémoire courte. La loi que nous avons adoptée, la loi PACTE, comprend un certain nombre de mesures qui répondent aux attentes des chefs d'entreprise, notamment la simplification des seuils sociaux. C'était une attente forte, c'est fait. Sur la possibilité de développer l'actionnariat salarié, attente forte, c'est fait. La simplification de la transmission, attente forte, c'est fait. La possibilité pour les chercheurs de travailler davantage en entreprise pour lier la recherche et le développement industriel, ce qui est un sujet clé, c'est fait. Et sur les impôts, nous allons faire 9 milliards d'euros de baisse d'impôts sur les entreprises sur la durée du quinquennat. 9 plus ce qui a été décidé récemment, on arrivera à un total de l'ordre de 13 milliards d'euros.
Le MEDEF est trop gourmand.
1 milliard d'euros de baisse de l'impôt sur les sociétés dès l'année prochaine. Une baisse qui va concerner toutes les entreprises. Moi, je me souviens des débats que nous avons eus avec les représentants du MEDEF qui nous disaient il faut que même les grandes entreprises soient concernées parce que sinon elles pourraient perdre en compétitivité. J'ai accepté cette proposition. L'impôt, y compris des plus grandes entreprises, sur les sociétés, passera de 33,3 à 31 l'année prochaine, 28 pour les plus petites. Donc je pense que nous faisons le nécessaire pour que les entrepreneurs de France puissent investir, innover et créer des emplois. Et ce que je constate, c'est que c'est un peu regrettable que le MEDEF ne le reconnaisse pas, quand les investisseurs étrangers, eux, viennent d'élire la France comme le pays le plus attractif de la zone euro.
Ils sont ingrats ?
Je ne parlerai pas ce terme-là, parce qu'il est brutal.
Presque.
Je vous le disais, je n'aime pas la brutalité. Je trouve simplement qu'ils ont la mémoire courte, et je trouve leur critique infondée et injuste. Ce que tous les investisseurs étrangers reconnaissent, à savoir qu'avec la transformation fiscale, la transformation du marché du travail, la transformation des règles pour les PME, nous sommes devenus le pays le plus attractif de la zone euro. Je demande simplement aux représentants des entreprises françaises de le reconnaître avec la même honnêteté et la même sincérité que les entrepreneurs étrangers.
C'est l'heure de Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Bruno Le Maire, pour ou contre le paquet de cigarettes au-dessus de 10 euros d'ici 2022 ?
Pour.
Donc vous voulez aller au-delà des 10 euros qui sont prévus en novembre 2020.
Nous allons en débattre, mais je vais vous dire, tout ce qui peut être fait pour lutter contre l'addiction à la cigarette est une bonne chose.
Quel est le maximum ?
C'est un coût social, c'est un coût médical très fort. Voilà.
Quel est le maximum ? Est-ce qu'on pourrait monter à 11 ou 12 euros d'ici la fin du quinquennat ?
Je ne vais pas vous donner maintenant le prix du paquet de cigarettes. Je dis simplement que c'est une bonne politique publique, du point de vue de la santé publique, que d'avoir un prix du paquet de cigarettes qui soit dissuasif.
Donc, au-delà de 10 euros, il sera à 10 euros en novembre prochain. Au-dessus d'ici 2022. Pour ou contre, Bruno Le Maire, la relaxe des décrocheurs de portraits du président de la République dans les mairies ?
Je voudrais juste préciser, dans votre jeu, qui est bien, hein, je ne critique pas le jeu.
C'est pas un jeu, c'est des questions cash.
Non, mais
c'est
des questions cash, j'y réponds cash. Ouais. Ça ne veut pas dire que ce sera la position qui sera prise par le gouvernement.
Non.
Il y a un Premier ministre, il y a un président de la République. Mais je vous donne mes convictions personnelles. Le paquet de cigarettes, c'est bien que le prix dissuade les gens de fumer. Ouais. Sur la relaxe, moi je vais vous dire, ça me choque. La justice est totalement indépendante. Donc c'est les juges qui décideront. Mais que ça me choque qu'on décroche le portrait du président de la République, oui. Oui, profondément. Je pense que c'est une atteinte à nos institutions, à la République. Et donc, j'estime que quand on a ce genre de comportement, il doit être sanctionné.
Pour ou contre la candidature de Cédric Villani à la mairie de Paris ?
Contre.
Pour ou contre la candidature de Bruno Le Maire à la région Normandie en 2021 ?
Contre.
Vous ne serez donc pas candidat en 2021.
Pas candidat en 2021.
Et vous souhaitez rester au gouvernement jusqu'en 2022.
Je l'ai déjà été, donc je pense qu'il faut savoir laisser sa place à d'autres qui réussiront mieux que moi. Moi, j'ai été battu à la région Normandie. J'espère qu'on trouvera un meilleur candidat qui, lui, gagnera la région Normandie en 2021.
En revanche, on vous a prêté l'envie d'être commissaire européen. Est-ce que ça a été le cas ou pas, Bruno Le Maire ?
On prêtait beaucoup d'envie à diriger le FMI, à être commissaire européen. Alors maintenant, j'apprends la région Normandie. J'adore cette région. Et moi, ma seule envie, c'est de rester ministre de l'économie et des finances.
Jusqu'à la fin du quinquennat.
Je considère que c'est dans la durée et avec de la constance qu'on obtient des résultats.
Alors justement, pour ou contre une nouvelle candidature d'Emmanuel Macron en 2022 ?
Pour. Parce que les présidents de la République aussi ont besoin de constance.
Et le président de la République le souhaite également?
Ça, c'est... interrogez-le, invitez-le, il vous répondra mieux que moi.
Alors, on passe à un autre sujet, celui de l'immigration. Guillaume Roquette, et en particulier l'aide médicale d'État, qui est très discutée.
Oui, le président de la République a donc ouvert ce débat sur l'immigration, notamment sur l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de se faire soigner gratuitement en France. Il y a des abus, disent certains. Faut-il de revenir démanteler cette AME, cette aide médicale d'État?
Je pense qu'on peut corriger des choses dans l'aide médicale d'État. Mais si on prend globalement le sujet de l'immigration, je trouve très surprenant que nous n'arrivions pas à parler sereinement d'un sujet qui est au cœur de la souveraineté nationale. Quand vous regardez aujourd'hui les chiffres des demandes d'asile, nous sommes l'un des seuls pays en Europe où les demandes d'asile sont en train d'exploser. On est passé de 76 000 il y a quelques années à 120 000 aujourd'hui.
Malgré une loi que vous avez fait voter et qui apparemment est efficace, est inefficace.
C'est la preuve que nous devons certainement faire plus. Si nous devons vraiment être un pays d'accueil responsable, qui accueille ceux qui sont vraiment menacés dans leur pays d'origine, il faut que notre politique d'immigration réponde à cette exigence. Aujourd'hui, quand vous voyez à la fois la forte augmentation des demandes d'asile, en deuxième lieu, le fait que c'est souvent des demandes d'asile de second rang, c'est-à-dire que ça vient d'autres pays de l'Union européenne, et en troisième lieu, que la plupart viennent de pays qui sont des pays dits sûrs, comme par exemple la Géorgie, c'est là où il y a la plus forte augmentation de demandes d'asile, il y a clairement un problème. Donc il faut que nous soyons capables de répondre sereinement, sans activer des ressorts qui seraient des ressorts négatifs, répondre clairement, sereinement, mais avec efficacité, à ce sujet.
Bon, dernière question avant question nette, Adrien Gendre.
Un sujet qui a été très largement évoqué hier à l'occasion de la Convention de la droite, Benjamin en parlait tout à l'heure, Marion Maréchal, Éric Zemmour, entre autres, se sont exprimés. Est-ce que ce sont pour vous les nouveaux adversaires ou les adversaires de demain, cette nouvelle droite qui parfois est même encore plus dure que le Rassemblement national d'aujourd'hui?
Nous verrons bien ce qu'il en sera. Ce que je sais, c'est que...
Ça vous fait peur?
Non. Non, je pense que nous apportons aujourd'hui les réponses aux inquiétudes des Français, que nous avons des résultats. Je pense que le président de la République a eu raison d'ouvrir ce sujet de l'immigration pour que nous puissions le poser sereinement et qu'il ne reste pas dans les mains de ceux qui jouent sur les peurs et les inquiétudes des Français. Je pense qu'il faut rappeler que la lutte contre l'islam politique doit être aussi au cœur de notre ambition. Parce que je l'ai dit depuis des années, je suis convaincu que nous avons là un adversaire plus ou moins caché, qui avance, qui démantèle des quartiers, qui rompt l'unité de la société et qui brise nos principes républicains les plus fondamentaux comme la liberté d'expression ou l'égalité entre les femmes et les hommes. Si nous savons aborder tous ces sujets sereinement, avec efficacité, que ce soit la crise économique et la création d'emplois, que ce soit la bonne maîtrise des flux migratoires, que ce soit la question de la culture française ou la lutte contre l'islam politique, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de...
Alors, on verra, ce sera le débat la semaine prochaine à l'Assemblée nationale qui a été donc reporté d'une semaine. On passe tout de suite à Question Nette.
Le grand jury, Question Nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Bruno Le Maire. Alors, les auditeurs et téléspectateurs ont attentivement, écoutez vos propos sur l'incendie de l'usine de Lubrizol à Rouen. Et le préfet de Seine-Maritime, lui, il a ordonné un gel des productions et des récoltes. Est-ce que l'État va indemniser les agriculteurs?
Il me paraîtrait normal que les pertes soient indemnisées. Vous connaissez mon amour du monde agricole, donc il ne faut pas aller me chercher là-dessus, parce qu'en général, je réponds toujours oui quand il faut aider les paysans français. Donc on va regarder cela, c'est le ministre de l'Agriculture qui décidera, mais... Beaucoup de sujets finissent très souvent sur le bureau de mise et finances parce qu'il faut payer au bout du compte. Mais qu'on indemnise les agriculteurs, qu'on compense leur manque à gagner pour ceux qui n'auraient pas été assurés, pourquoi pas?
Est-ce que sur cette question, est-ce que vous allez vous rendre auprès des agriculteurs, aller les voir justement?
Mais je ne suis plus ministre de l'Agriculture, j'aimerais bien. Vous savez, plus je vois de paysans français,
mieux je me porte. On a vu des photos ahurissantes hier de contenants, de pots avec de l'eau pleine de suie qui sont prises justement sur ces récoltes-là. Est-ce que vous dites l'État peut aussi à un moment donné être tenu pour responsable? Il peut y avoir des plaintes. Est-ce que vous craignez des plaintes?
L'État, une des missions fondamentales de l'État, c'est de protéger les Français et protéger aussi les agriculteurs.
en direct en ce moment même, eh bien, le convoi funéraire qui porte la dépouille de Jacques Chirac est en train de partir de son ancien domicile rue de Tournon et de se diriger donc vers les Invalides. Je vous en informe, c'est en ce moment même que cela se passe et vous le voyez également sur notre antenne, sur LCI, en bas de cet écran, avec une cérémonie d'hommage qui doit commencer tout à l'heure à 14h, hommage populaire avec les Français. On revient à Question Nette, Marie-Pierre Haddad.
Oui, cette fois-ci, ça concerne la PMA pour toutes. Alors, vous avez salué le travail de votre collègue du gouvernement, Agnès Buzyn, mais vous êtes resté très silencieux sur votre avis personnel, malgré les relances qui ont été faites ici en plateau. Et Marcel, elle a noté votre esquive. C'est comme ça qu'elle traduit votre silence. C'est quand même une question assez importante pour que vous preniez position. Donc, en gros, vous dites que vous n'avez pas changé d'avis.
Aucune esquive de ma part. Je pense avoir répondu très clairement. On peut concilier l'attachement à un modèle familial, et la reconnaissance des attentes d'autres personnes en France. Et je pense qu'il est mieux, on ne peut pas être plus clair que ce que je dis là, d'avoir un cadre juridique que de ne pas avoir de cadre juridique. Et c'est l'honneur de cette majorité d'avoir donné un cadre juridique à des milliers de personnes qui l'attendaient.
Et enfin, dernière question, cette fois-ci, ça concerne les géants américains du numérique, donc Amazon, Google, Facebook. Ils déclarent en France un chiffre d'affaires 4 fois inférieur à celui qu'ils réalisent en réalité. Alors ça, c'est Mounir Majoubi que vous avez connu, puisqu'il était dans votre ministère, qui évalue ce chiffre. Donc est-ce que c'est de l'optimisation fiscale? Est-ce que c'est de la fraude fiscale? Qu'est-ce que c'est d'après vous? Ce manque à gagner, est-ce que ça représente 1 milliard?
Mais il y a un évitement fiscal des géants du numérique qui est évident. C'est bien pour ça qu'on a mis en place cette taxe sur les géants du numérique. C'est bien pour ça que je me bats pour avoir une taxation juste au niveau international de tous les géants du numérique. Et puis, il faudra aller plus loin. Parce que chacun doit prendre conscience du défi que représentent les géants du numérique, pas simplement pour notre économie, mais pour notre état de droit, pour le bon fonctionnement de la démocratie, pour la stabilité monétaire. Quand je vois Facebook qui propose sa monnaie Libra, je redis que Libra n'est pas la bienvenue en Europe.
Mais quand Google refuse de rémunérer les médias dont l'information est remise sur ces sites, c'est une façon de dire qu'ils font ce qu'ils veulent.
Vous avez raison, Guillaume Roquette, ça fait partie des sujets qu'il faut traiter. Nous ne sommes qu'au début des défis que posent les géants du numérique à l'État, à la démocratie et aux citoyens. Et que ce soit sur l'aspect fiscal, sur la juste rémunération, sur la compétition équitable avec les autres entreprises, sur le contrôle des données, eh bien, il faudra certainement aller plus loin que là où
nous sommes aujourd'hui. Merci Bruno Le Maire, c'était votre grand jury. Tout de suite, place à une émission spéciale hommage à Jacques Chirac sur nos antennes. Très belle semaine à tous, à la semaine prochaine.